Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une innovation qui pourrait, sans exagérer, vraiment changer la face de nos villes.
Absolument.
On a une présentation ici de la société Precast First et il s'attaque à un monument lourd de la fabrication du béton.
Le matériau le plus utilisé au monde.
Exactement. L'idée, c'est de le rendre à la fois plus solide, moins cher et plus écologique.
Le trio gagnant.
Et le plus fou, c'est que le point de départ de tout ça ne vient pas d'un laboratoire de pointe,
Non.
mais d'une cuisine.
Et d'une recette de salade.
Et c'est justement ce décalage qui est fascinant. L'idée qu'en changeant un seul petit geste, une seule étape dans un processus vielleux, quoi, plus d'un siècle, on pourrait tout changer.
On pense tout savoir sur le béton, c'est ça. Et la question que ça pose, elle est presque philosophique. Et si, depuis tout ce temps, on s'y prenait mal, tout simplement?
Alors, cette salade de petits pois, il faut nous expliquer. La présentation commence vraiment comme ça, avec une analogie de cuisine.
C'est ça.
On a des petits pois, un œuf, de l'huile, du sel. Et deux manières de faire. La première, la plus simple, c'est on met tout dans le bol et on touille.
On mélange tout d'un coup.
Qu'est-ce qui se passe en général quand on fait ça?
Ben, le résultat est assez médiocre. On imagine bien la scène, hein. Certains petits pois sont couverts d'œufs, d'autres sont juste huileux, et une bonne partie n'a quasiment rien. La sauce, si on peut appeler ça une sauce, est répartie de façon complètement aléatoire.
C'est pas très homogène.
Pas du tout. C'est plus une bouillie qu'une salade. Les ingrédients sont là, mais ils ne fonctionnent pas ensemble.
D'accord. Et la deuxième méthode?
Alors la deuxième méthode, c'est celle de la personne qui réfléchit une seconde. On prend un bol à part. Et on prépare le liant d'abord.
La mayonnaise.
Exactement. On émulsionne l'œuf, l'huile, le sel, jusqu'à avoir une sauce parfaite, bien homogène, stable.
D'accord.
Et c'est seulement quand ce liant est parfait qu'on l'ajoute aux petits pois, pour bien tout enrober.
Et là, le résultat est radicalement différent, j'imagine. Chaque petit pois a exactement la même couche, c'est uniforme, c'est efficace.
C'est exactement ça. C'est le cœur de l'analogie. On optimise d'abord la colle, le liant, pour qu'il soit le plus performant possible.
Et ensuite, on l'applique.
Voilà. Et la présentation insiste sur un point qui est la clé de tout. Vu de loin, les deux salades peuvent se ressembler. Mais au niveau de la structure, de l'efficacité, elles n'ont plus rien à voir.
Bon, l'analogie est très claire. Alors passons au chantier. Comment est-ce qu'on transpose ça au béton gardien? Les petits pois, ce sont les granulats, le sable, le gravier.
C'est exactement ça. Les granulats, c'est le squelette du béton. Et la mayonnaise?
C'est la pâte de ciment, le ciment plus l'eau.
Voilà. Et là aussi, on retrouve les deux écoles. La méthode quasi universelle aujourd'hui, sur 99% des chantiers, c'est la salade tout en un.
On met tout dans la bétonnière et on lance la machine.
C'est ça. Gravier, sable, ciment, eau, et on fait tourner. C'est une habitude qui s'est installée pour aller vite, pour la simplicité.
Et donc on a le même problème qu'avec les petits pois, des granulats qui sont mal enrobés.
Précisément. Au niveau microscopique, c'est une compétition. L'eau essaie de réagir avec le ciment, c'est ça l'hydratation qui fait durcir le béton.
D'accord.
Mais les granulats sont au milieu, ils gênent. Du coup, certaines zones auront trop d'eau, pas assez de ciment, ce qui crée des points faibles. D'autres auront du ciment mal hydraté qui ne sert à rien. C'est du gaspillage en fait.
Et la méthode Precast First, c'est donc de faire la mayonnaise de ciment d'abord.
Voilà. On mélange d'abord juste le ciment et l'eau. On crée une pâte super homogène où chaque grain de ciment peut réagir avec l'eau dans des conditions idéales. On obtient un liant surpuissant.
Et c'est seulement après qu'on ajoute ça au granulat.
C'est ça. On passe d'un mélange aléatoire à un enrobage systématique et complet. Chaque particule est couverte.
D'accord. Sur le papier, ça semble logique, presque évident. Mais alors, une question se pose, si c'est si simple, si efficace, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas déjà comme ça? Ça paraît un peu trop facile, non?
C'est une excellente question, et c'est là qu'on touche au dur.
Oui.
Ça demande un changement d'habitude et potentiellement d'équipement. On ne peut pas faire ça avec la petite bétonnière qu'on loue le week-end. Il faut des malaxeurs plus spécifiques, qu'on appelle à action forcée, capables de gérer cette pâte très visqueuse.
Ah, d'accord, donc il y a un investissement.
Il y a un investissement et une courbe d'apprentissage. Et puis, il y a l'inertie du secteur. Le fameux « on a toujours fait comme ça ». C'est une force très très puissante. Pour changer une procédure aussi basique, il faut prouver que le gain est absolument spectaculaire. Pas juste, un peu mieux.
Et c'est là que les résultats des essais deviennent cruciaux.
Exactement.
Justement, parlons-en, la présentation donne des chiffres très concrets. Ils ont pris une recette de béton ultra classique, un dosage 1, 2, 4, c'est ça? Environ 350 kg de ciment par mètre cube.
Oui.
Et point capital, sans aucun additif chimique. Pas de superplastifiant, rien. Du béton de base.
Le genre de béton qu'on coulerait pour une dalle de garage. Rien de technique. Normalement, avec ce mélange, on s'attend à une résistance à la compression de, disons, 15 à 25 mégapascals, les fameuses MPa. C'est la norme.
15 à 25. Et avec leurs métaux dans deux phases, ils obtiennent combien ?
La moyenne des essais est de 50 mégapascals.
Attendez, pardon. 50 ? 5-0 ?
50.
Avec la même recette.
C'est plus du double. Ça paraît presque trop beau pour être vrai.
Et pourtant.
Normalement, pour atteindre 50 MPa, il faut des formules très complexes, des adjuvants. Absolument. Pour donner une image, 50 mégapascals, c'est la pression de 500 voitures empilées sur une surface grande comme un timbre-poste. C'est colossal.
D'accord.
Normalement, la classification des bétons courants s'arrête vers 45 mégapascals. Au-delà, on entre dans la catégorie des bétons à haute performance, les BHP.
Et ça, les BHP, on les réserve pour quoi ?
Les piliers d'un pont, les fondations d'un gratte-ciel.
C'est ça ?
Les ouvrages d'art, les structures soumises à des contraintes extrêmes. Et pour les faire, on utilise des ciments spéciaux, des adjuvants chers. C'est de la haute technologie.
Alors que là ?
Le fait d'atteindre ce niveau, avec les ingrédients les plus basiques, juste en changeant l'ordre du mélange, c'est ça, la rupture.
C'est fou.
D'ailleurs, il y a une jalousante dans la présentation. Ils ont testé un gros caillou trouvé sur place. Il a résisté à 72 mégapascals. Et ils qualifient leur béton de « cousin proche de la pierre naturelle ».
On ne fabrique plus un agglomérat, on crée une roche synthétique.
C'est un peu l'idée.
C'est sidérant. Mais alors, si le béton pour une maison n'a besoin que de 25 mégapascals, à quoi sert d'avoir un béton aussi résistant pour des applications courantes ?
Et c'est là qu'on touche aux deux implications majeures, qui vont bien au-delà de la simple performance.
D'accord.
La première, elle est économique. Vous avez raison, la plupart du temps, on n'a pas besoin de 50 mégapascals. Mais si cette méthode permet d'atteindre 50 mégapascals avec 350 kg de ciment...
Ça veut dire que pour atteindre les 25 mégapascals standards...
On peut utiliser beaucoup, beaucoup moins de ciment.
On pourrait diviser la quantité de ciment par deux, par exemple.
C'est l'idée. La réduction est très significative. Et comme le ciment, c'est de loin l'ingrédient le plus cher du béton...
Le coût des matériaux chute ?
Drastiquement. On construit aussi solide, mais pour bien moins cher. Ça, dans le monde du BTP, c'est une musique qui plaît beaucoup.
On imagine. Et au-delà de l'argent, il y a l'autre dimension, qui est peut-être encore plus importante aujourd'hui.
L'autre dimension, c'est l'impact environnemental. Et là, il est gigantesque.
Ah oui ?
Il faut savoir que l'industrie du ciment est un mastodonte climatique. À elle seule, elle est responsable d'environ 8% des émissions mondiales de CO2.
8%, c'est plus que tout le transport aérien mondial.
Exactement. Chaque tonne de ciment produite, c'est presque une tonne de CO2 dans l'atmosphère. C'est une des industries les plus difficiles à décarboner.
Donc si on réduit la consommation de ciment de, disons, 40% sur un grand projet, l'impact est direct.
Il est direct et il est massif. Sur un projet de quartier de 1000 logements, on parlerait de milliers de tonnes de CO2 évitées. C'est l'équivalent de retirer des centaines, voire des milliers de voitures de la circulation pendant un an.
Tout ça avec une recette de salade ?
C'est ça. En rendant le ciment plus efficace, en utilisant chaque particule à son plein potentiel au lieu de la gaspiller, on s'attaque au cœur du problème environnemental du béton. Moins de ciment, c'est moins de CO2, moins de carrière, moins d'énergie.
Vous savez, ça fait des années que j'entends parler de béton vert, de formules complexes, d'ajout de matériaux recyclés. Et là, la solution serait simplement de mieux mélanger. Il y a quelque chose de presque déroutant.
C'est une vraie leçon d'humilité, en fait. Ça nous rappelle que parfois, les plus grandes innovations, ce ne sont pas des inventions compliquées, mais juste la remise en question d'une évidence, d'un postulat qu'on ne vérifiait même plus.
L'idée que la qualité du liant prime sur tout le reste.
Et que l'industrie l'avait un peu mise de côté au profit de la vitesse d'exécution.
C'est donc ça le point à retenir ? Qu'un simple changement dans l'ordre du mélange, inspiré d'une recette de cuisine, a le potentiel de rendre le matériau le plus utilisé au monde plus fort, plus économique et surtout beaucoup plus écologique ?
Oui. C'est l'idée qu'on peut faire radicalement mieux avec exactement les mêmes ingrédients.
C'est une perspective assez incroyable.
Absolument. Et pour ouvrir peut-être une dernière porte, la présentation se concentre beaucoup sur la résistance à la compression. C'est la mesure reine pour le béton.
Oui.
Mais on peut se demander si cette méthode crée un béton plus dense, plus compact, où tout est parfaitement enrobé et protégé, quelles autres propriétés pourraient être améliorées ?
Bonne question.
On peut penser à la durabilité, par exemple. Une meilleure résistance au gel, au sel, à la pollution chimique. On peut imaginer une meilleure imperméabilité, ce qui est un enjeu énorme pour les tunnels ou les barrages.
voire une meilleure finition esthétique.
Pourquoi pas? Pour les bétons d'architecte, ça pourrait tout changer. Peut-être que cette histoire de salade de petits pois n'a pas seulement amélioré une recette, mais qu'elle a ouvert un champ de recherche entièrement nouveau sur les capacités cachées d'un matériau qu'on pensait, à tort, connaître par cœur.